I comme impérialisme et son pendant, l'anti-impérialisme. L'impérialisme aujourd'hui, un mot lourd de sens, puisque au nom de l'anti-impérialisme, un grand nombre de luttes ont lieu un peu partout dans le monde. Mais comment, à la base, dans la pensée marxiste, l'impérialisme est-il pensé, surtout qu'on est dans une toute autre époque où les rapports de force et les formes de concentration sont pas tout à fait comparables à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, comment justement cette notion, est-ce qu'on peut la faire évoluer au fur et à mesure que les phénomènes qu'on dit aujourd'hui de mondialisation avance.
Vous avez raison dès le départ, en ce sens que l'impérialisme est un mot important. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à parler d'impérialisme pour dénoncer un certain nombre de politiques, qui sont des politiques, mais qui sont aussi des économies, des théories économiques. Et en opposition, naturellement, l'anti-impérialisme, à condition qu'on se donne la peine de savoir ce que l'expression anti-impérialisme recouvre. Mais en attendant, prenons impérialisme. Parlons impérialisme. L'impérialisme, c'est très intéressant de constater que ce mot, qui était considéré comme un mot condamné, comme le mot révolution, comme la lutte de classe, le mot révolution, pendant longtemps, il a été employé essentiellement pour la vente des voitures Renault en Chine, ou pour les couches-culottes, des choses comme ça. La lutte de classe, on n'en parlait plus, en particulier en France, grâce à la venue au pouvoir des socialistes qui voulaient faire de l'entreprise un lieu d'harmonie, de paix sociale. Et brusquement, on a vu ressurgir ce mot, qui était pratiquement une grossièreté. Hein, il faut se souvenir de ça. Parler d'impérialisme, c'était ringard et presque grossier, c'était presque obscène. Alors aujourd'hui, on peut dire que l'impérialisme a une certaine actualité. Ma thèse personnelle, c'est que la forme aujourd'hui de l'impérialisme, c'est ce qu'on appelle la mondialisation ou globalisation. Je dis cela parce que les caractères qui avaient été donnés à l'impérialisme au moment de son apparition historique sont ceux qu'on retrouve aujourd'hui dans la mondialisation, ce qui ne signifie pas qu'il faille aplatir l'une sur l'autre. Mais d'abord, je veux préciser les points de ressemblance. L'impérialisme a été une théorie qui a été forgée au début du siècle dernier, à la fois par des théoriciens marxistes et par d'autres théoriciens de gauche, qui ont considéré que l'impérialisme était à ce moment-là la forme à laquelle étaient parvenus les rapports capitalistes de production et qui dessinait donc une nouvelle configuration du rapport de force sur le plan international. Cette thèse a été reprise, creusée par Lénine, et ça aboutit notamment à l'ouvrage dont on peut dire qu'il a défini ce qu'était l'impérialisme pour plusieurs générations, qui s'intitulait « L'impérialisme, stade suprême du capitalisme ». Alors, je précise tout de suite ici que, contrairement à ce qu'on a dit, à ce qu'on a pu croire, le mot « suprême » ne signifie pas du tout « dernier », comme si après l'impérialisme, il n'y aurait plus rien. Chez Lénine, le mot « suprême » signifie très exactement « actuel » ou « contemporain ». L'impérialisme, c'est le stade qu'a pris le capitalisme à un moment donné. Alors, quels sont ses traits ? Je rappelle rapidement ce qu'énonçait Lénine, et il sera facile ensuite à tout un chacun de voir quelle relation il y a entre la description faite par Lénine et puis les caractéristiques que nous pouvons donner aujourd'hui de la mondialisation. Le premier, c'est que l'impérialisme est un stade historique du capitalisme. C'est le stade que Lénine appelait le stade monopoliste du capitalisme. Et ici, il faut bien voir que quand on parle d'impérialisme, ou à plus forte raison aujourd'hui, quand on parle de mondialisation, il ne faut pas entendre par là quelque chose qui serait radicalement nouveau. C'est une tendance du capitalisme qui est apparue comme dominante, mais qui existait dès le départ. C'est-à-dire dès le manifeste, Marx et Engels disent que la vocation, si l'on peut parler ainsi du capitalisme, c'est de parvenir à la domination mondiale. Et que par conséquent, le développement du capitalisme l'a conduit à un moment donné à cette domination. Alors Lénine l'a caractérisé en disant qu'au stade impérialiste, il y a une concentration de la production, il y a un rôle déterminant des grandes banques, l'accaparement des matières premières par les trusts et l'oligarchie financière, un partage économique du monde par des cartels internationaux, ce qu'on appelle aujourd'hui les multinationales, et un partage territorial du monde qui, lui, est considéré comme terminé. Il a été terminé notamment par la colonisation. Le deuxième caractère qu'il attribuait à l'impérialisme, c'était de dire que l'impérialisme était un capitalisme parasitaire ou pourrissant. Ça veut dire que la bourgeoisie est pourrissante parce que, de républicaine et démocratique qu'elle était, avec l'impérialisme, elle devient ouvertement réactionnaire. Et le dernier trait que Lénine avançait, c'était que l'impérialisme était un stade agonisant du capitalisme, c'est-à-dire qu'il marquait la nécessité d'ouvrir la transition vers le socialisme. Ce dernier trait apparaîtra comme le trait le plus discutable, on pourrait dire eschatologique. En réalité, si l'on regarde aujourd'hui ce qu'il en est avec la mondialisation, force est bien de reconnaître que les dangers qui sont portés par la mondialisation représentent une menace telle pour l'existence même de la planète que se fait jour, sous des formes diverses qui ne sont pas nécessairement conscientes, se fait jour la nécessité de substituer aux rapports de production capitalistes d'autres rapports de production. Il y a le creusement des inégalités qui va croissant, il y a les formes d'exploitation qui mettent des pays pratiquement dans une situation de désespérance et qui condamne un continent comme l'Afrique à une mort à peu près sûre, à la fois parce que c'est un continent surexploité, parce que politiquement il est contrôlé par les forces de l'impérialisme les plus réactionnaires, parce que les grands laboratoires refusent de distribuer en Afrique le traitement anti-sida qui permettrait d'éviter des morts. Mais il y a d'autre part aussi les menaces dont le monde a pris conscience, qui sont les menaces environnementales. C'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, on sait très bien que la manière de vivre, les économies développées, comme l'économie des États-Unis, représentent une menace à l'échelle de la planète. Par conséquent, on peut considérer qu'il y a eu un effondrement avec le mur de Berlin pris de manière symbolique des pays socialistes ou des pays qui se prétendaient tels. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, la nécessité d'une transformation des rapports de production est extrêmement importante. Alors, les formes qui aujourd'hui amènent à considérer que le constat que faisait Lénine et un certain nombre de théoriciens de son époque est un constat que la mondialisation actuelle non seulement vérifie, mais qu'elle a aggravé dans la mesure où avec le système des délocalisations, le système de la flexibilité du travail, et surtout le chômage que l'on considère aujourd'hui comme structurel, et non pas conjoncturel. Structurel, ça veut dire qu'au-dessous d'un certain seuil, il ne peut pas être réduit. Tout ça confirme entièrement la domination des multinationales. Il faut ajouter à cela que une des tendances de la mondialisation actuelle, c'est celle qui consiste à faire de la guerre une véritable politique. Et lorsque Lénine indiquait que le partage du monde était terminé, c'est-à-dire que le pouvoir se réduisait de plus en plus dans le monde, au point que un autre théoricien marxiste, Karl Kautsky, pouvait parler d'un ultra-impérialisme, c'est-à-dire d'un impérialisme qui verrait une puissance dominer le monde entier. Kautsky pensait que cette puissance ultra-impérialiste apporterait la paix parce qu'elle n'aurait plus de concurrents. Bon, en réalité, ceci est très contestable, mais ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est que contrairement à ce qui s'est passé dans une période récente de notre histoire, je veux dire la dernière guerre mondiale, la dernière guerre mondiale et la guerre de 14, on pouvait les caractériser comme des guerres inter-impérialistes. C'est-à-dire que les grandes puissances impérialistes conduisaient la lutte les unes contre les autres. Alors aujourd'hui, les contradictions entre les puissances impérialistes existent toujours. On voit que sur les terrains où elles se développent, ces politiques, comme en Afrique par exemple, sont des politiques concurrentielles. Il n'empêche que tous ces impérialismes-là sont soumis à la domination d'un impérialisme particulier, qui est l'impérialisme américain. Ça se voit lorsque les pays, par exemple, refusent de s'engager dans la guerre en Irak, ils n'ont rien de plus pressé en même temps que de donner par la suite à l'ONU et ailleurs des gages à la puissance impérialiste dominante. Ajoutons un dernier trait, le fait que ce qui caractérise les relations aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la domination du capital financier. C'était très exactement ce que disait Lénine pour définir l'impérialisme, savoir que le capital financier dominait le capital productif. Le capital financier donne en effet l'impression, et c'est plus qu'une impression, c'est souvent une conviction de la part d'un grand nombre de gens, que l'argent fait de l'argent. Et que par conséquent, des stocks options, la spéculation boursière enrichit sans qu'on passe par la production. Ce qui, naturellement, est une mystification, c'est une aberration. Mais aujourd'hui, plus que jamais, on le croit. Et dans la pratique industrielle, la pratique entrepreneuriale, on voit que les capitaux qui devraient être destinés à des investissements productifs pour améliorer les conditions de vie sont détournés vers des investissements spéculatifs. Une des grandes difficultés d'aujourd'hui, c'est cette masse d'argent qui fait fonctionner toutes les planches à billets et qui nous fait oublier que la production demeure le lieu par excellence de la création des richesses.